Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé-bien-être du lundi au vendredi de 15h à 16h. Comme tous les jours, dès 15h, il se tient prêt à mes côtés pour prendre soin de nous tous. Et oui, c'est une grande mission ça, hein, c'est le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Allez, dans notre grand dossier du jour, nous allons nous pencher cet après-midi sur la santé et le bon développement psychique et physique de nos enfants de 0 à 16 ans, puisque c'est le sujet du guide que vient de publier notre invité du jour, le docteur Arnaud Fersdorf. Il est pédiatre réanimateur et avec lui donc, on va plutôt les prendre à partir de 3 ans, nous aujourd'hui les enfants, et jusqu'à l'adolescence. Et il va nous expliquer les moments clés de leur santé, ceux à ne pas louper. Et il va aussi nous donner ses meilleurs conseils pour guider nos enfants sur le chemin de l'autonomie, en fonction de leur âge bien sûr. Ensuite, nous retrouverons Benjamin Lévesque pour sa chronique beauté. Aujourd'hui, il nous parlera de l'intérêt des propriétés éventuelles du CBD dans nos cosmétiques. Et enfin, vers 15h50, comme tous les jours, nous retrouverons la chronique sexo de Catherine Blanc. Aujourd'hui, elle nous parlera de ces célibataires qui se mettent parfois un peu trop la pression avant un premier rendez-vous.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, c'est le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on va commencer par cette question de Perrine. Écoutons-la.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. J'aurais une question à vous poser. Alors j'ai entendu dire que les femmes qui avaient un infarctus n'avaient pas forcément les mêmes symptômes que les hommes, comme par exemple une forte douleur dans la poitrine ou mal à un bras. Est-ce que vous pourriez me dire ce qu'on entend par là? C'est quoi alors les symptômes du coup d'un infarctus chez les femmes? Merci pour votre précieuse réponse et bonne émission.
Merci Perrine pour votre question. Alors pour vous répondre très clairement, nous avons interrogé pour vous une spécialiste du sujet, c'est le professeur Claire Mounier-Veillé. Elle est cardiologue et cofondatrice de la fondation Agir pour le cœur des femmes. On l'écoute.
Les symptômes d'infarctus de la femme sont effectivement différents dans un cas sur deux. Donc c'est effectivement une douleur en étau, on a l'impression d'avoir le thorax comprimé, avec une douleur qui va dans la mâchoire et dans le bras. Et ça traduit le fait qu'une artère du cœur, la coronaire, est en train de se boucher. Les autres symptômes sont des étourdissements soudains, c'est-à-dire qu'on a l'impression que ça tourne brutalement, on a mal à l'estomac, on a des brûlures à l'estomac, des symptômes digestifs comme des nausées, voire même des vomissements, une fatigabilité inhabituelle pour les efforts de la vie quotidienne. Donc ces symptômes-là, souvent ils sont associés et ils surviennent pas chez n'importe quelle femme, ils surviennent chez des femmes qui ont des facteurs de risque cardiovasculaire. Donc des femmes fumeuses, des femmes stressées, des femmes sédentaires, hypertendues, diabétiques ou qui ont du cholestérol. Ce qui fait que une femme ne doit pas se dire c'est rien, j'en parlerai plus tard à mon médecin, mais qu'elle doit appeler, notamment si les symptômes durent plus de 10 minutes.
Voilà, c'était le professeur Mounier-Veillé au micro de Valentin Piovesan. Alors Jimmy, on va en prendre une autre de questions, comme tous les jours, une deuxième pour vous, celle de Samuel en région Aquitaine.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy, j'ai une petite question pour vous. Ma grand-mère, elle est en maison de retraite, elle est assez handicapée, et l'équipe qui la soigne nous avait prévenu qu'elle avait des escarres, et ils sont en train d'essayer de traiter ça. J'ai absolument pas compris ce que c'était et on pourrait rien faire pour éviter ça. Est-ce que ça peut guérir? Je vous remercie pour votre réponse et passez une excellente journée. Au revoir.
Alors Jimmy, on va reprendre tout à zéro. D'abord, c'est quoi concrètement une escarre? J'en dis comment d'ailleurs?
Un escarre.
Un escarre, très bien. Alors c'est quoi?
Alors, l'escarre, c'est une plaie par pression chez des personnes qui vont être immobilisées ou alitées au niveau des zones d'appui. Concrètement, vous êtes un peu grabataire ou vous êtes anesthésié car vous êtes en réanimation, vous êtes toujours dans la même position et ça va entraîner une pression au niveau des tissus et à force d'avoir cette pression continue sans jamais bouger, eh bien, il va y avoir ce qu'on appelle une hypoxie, c'est-à-dire un manque d'oxygène qui va faire que les tissus vont donc souffrir, aboutir justement à cette escarre et donc c'est une souffrance de la peau par une immobilisation prolongée.
Très bien. Alors, on a compris que ce n'est pas un truc qui a l'air très agréable. Hein. Néanmoins, c'est que, comme souvent en médecine, j'imagine, il y a escarre et escarre. Il y a des degrés de gravité, non?
Alors, il y a 4 stades dans l'escarre. Pardon. Le premier, c'est la rougeur. Donc, c'est rouge. Et lorsque vous appuyez dessus, ça ne devient pas blanc. Donc, c'est un des signes d'alerte. Ensuite, vous avez la peau qui va commencer à se creuser comme une brûlure, en quelque sorte. Mm-hmm. Et à mesure que l'escarre progresse, il va y avoir une atteinte des tissus sous-cutanés jusqu'à aboutir au stade 4 qui correspond à une nécrose.
Donc, ça va de la plaie jusqu'au truc qui carrément devient vraiment très, très, très moche.
Très noir, très moche, ouais. Et qui met du temps à guérir. Car c'est ça le problème de l'escarre, c'est qu'on a du mal à le prendre en charge une fois qu'il est apparu.
Alors, est-ce qu'il y a des zones du corps, vous le disiez, les zones d'appui, donc il y a appui quand on est allongé, alité durablement. Est-ce que c'est ça, on les a où? Au niveau des fesses, au niveau de... Hein, c'est ça, j'imagine.
Exactement. Oui. Alors, 80% des escarres sont au niveau du sacrum, c'est-à-dire au niveau des fesses. Et on l'imagine assez bien, lorsque vous êtes allongé, les fesses sont un des points d'appui. Et au niveau du talon, les escarres talonniers,
ah oui.
Ça représente 80%. Et chez les enfants, on peut aussi en avoir, notamment au niveau de l'occiput, c'est-à-dire au niveau de l'arrière du crâne.
plus fréquent. J'étais en train de chercher l'occiput, je me dis c'est où déjà ça.
Non, c'est pas une insulte, c'est un vrai terme médical. D'accord. Mais il faut bien comprendre que toute zone d'appui est à risque d'escar.
Très bien. Et alors, est-ce que le patient il se rend compte? Est-ce que ça fait mal? C'est forcément douloureux un escar?
Bah, pas spécialement, puisque souvent c'est des malades qui vont être notamment en réanimation, oui, ou des personnes un peu âgées, un peu grabataires ou immunodéprimées, un diabétique qui bouge pas beaucoup, qui reste un peu allongé, qui est un peu obèse. Eh bien, il ne peut pas sentir le premier stade. Et c'est souvent là le problème, c'est que ça va évoluer assez rapidement, car c'est souvent en plus des personnes assez fragiles.
Alors, on n'a pas le temps d'entrer dans le grand détail, on va dire, mais comment ça se traite les escars?
Le meilleur traitement, c'est la prévention. Pour éviter d'avoir un escar, il faut mobiliser le patient au maximum. C'est pour ça qu'on change souvent les patients de côté, exactement,
ouais,
sur le dos, sur le côté, à coup à droite, à coup à gauche. On prescrit notamment souvent des matelas anti-escars avec des lits médicalisés. Et puis, il y a certains petits dispositifs comme des talonnières qui permettent de surélever le talon et d'éviter d'avoir cet escar. Et puis, quand on est au stade 1, les aides-soignantes ont souvent l'habitude de l'observer, de le remarquer. Eh bien, on fait des massages justement avec des produits
c'est
spéciaux.
C'est pour ça, on mobilise, là, on la fait bouger. Quoi,
pour essayer de soulager les tissus. Et puis, lorsque ça évolue, on doit prescrire des pansements un peu plus spéciaux. Et là, c'est des soins quotidiens beaucoup plus longs.
Très bien. Mais écoutez, c'était vraiment très clair, Jimmy. Même
pour
moi, j'ai appris. Non, comme tous les jours, j'ai appris plein de choses. Alors, si vous aussi, vous voulez nous laisser vos questions, santé, bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout, pas d'hésitation.
Europe 1.
Dans un instant, nous allons accueillir notre invité pour le dossier du jour. C'est le pédiatre Arnaud Fersdorf. Il vient de publier un guide, un manuel de survie presque pour les parents, même pour les grands-parents d'ailleurs, pour tous ceux qui ont des enfants entre 0 et 16 ans dans leur entourage. Tous ses meilleurs conseils en fonction de l'âge de votre enfant. C'est dans un instant et c'est sur Europe 1.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Très heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé, Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour, jusqu'à 16h. Alors accueillons tout de suite notre invité pour le dossier du jour. C'est vous Arnaud Fersdorf, docteur Arnaud Fersdorf, pardon. Je dis Arnaud parce que vous êtes un habitué maintenant. Hein. Vous savez, je vois 2, 3, 4 fois que vous venez dans l'émission. Bonjour.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy.
Vous êtes pédiatre réanimateur et l'auteur du livre « Votre enfant de 0 à 16 ans » qui est paru chez Attier Parents. Alors avec vous cet après-midi, on a décidé de procéder donc par tranche d'âge, comme dans votre bouquin finalement. Et on va commencer par les 3-5 ans. On avait parlé des bébés précédemment, maintenant on va commencer à 3 ans. En termes de vaccin d'abord, puisque c'est important la prévention, on va commencer par ça. On est tranquille, non, je crois, dans cette période, jusqu'à 6 ans grosso modo, si on est à jour, il n'y a rien de particulier, non?
C'est vrai que les vaccins sont faits à 18 mois, on a fait ce qu'il fallait faire. La tranche 3-5 ans, on a une pause et on refera à 6 ans. Sauf si l'enfant va voyager avec les parents et qu'il y a des indications pour certains vaccins, bien entendu.
Et si on s'intéresse aux enfants de 3-4 ans, est-ce qu'on doit commencer à s'inquiéter d'un éventuel surpoids? Un enfant qui a quelques petits bourrelets, est-ce que ça pose problème? Est-ce que ça doit inquiéter les parents?
C'est vrai que nous, on est très attentifs, comme tous les médecins qui suivent les enfants, aux courbes de poids-taille, et en particulier le fameux index de masse corporelle, l'IMC. On doit être très vigilant parce qu'il y a beaucoup d'habitudes qui peuvent être mauvaises, prises dès le départ.
C'est vrai qu'on a l'impression que c'est parfois le truc central de la consultation chez le pédiatre. On se dit qu'ils sont un peu obsédés par le poids et la taille, hein, quand même.
Ouais. Vous n'avez pas tort de dire ça, parce que nos sociétés savantes sont en train de nous remettre un peu sur un autre type de rail, et c'est assez récent. Et maintenant, il y a ce qu'on appelle le fameux rebond d'adiposité, hein, vers 3-4 ans, où il peut y avoir une rechute, d'une remontée de l'index de masse corporelle. Et on commence maintenant à se rendre compte que quand un enfant doit, en dehors des facteurs environnementaux, bien sûr, un enfant qui mange pas, qui mange trop plutôt, qui a de mauvaises habitudes alimentaires, qui reste à la maison, qui bouge pas, etc. Mais on se rend compte que quand un enfant doit faire de l'obésité, c'est un peu écrit dans ses gènes. Et on doit désormais, nous médecins, faire très attention à ne pas faire de cet enfant un enfant qui sera mal dans sa peau. Et maintenant, je dis à certains enfants, plus âgés bien entendu, quand ils vont rentrer dans la préadolescence, tu as un surpoids, c'est pas grave, on va faire en sorte que tu le vives bien. Le discours est différent.
Ah oui, complètement.
Et du coup, comment est-ce qu'on fait pour essayer de lutter contre ça? Vous avez dit un peu d'activité physique, mais c'est vrai qu'à 3-5 ans, c'est un peu compliqué. Est-ce qu'on peut essayer de les stimuler un peu plus?
On peut
pour
même
les
pas
bouger
les inscrire encore à un sport en général à cet âge-là.
Peut-être nous, on est coupable. Peut-être qu'on refuse aussi de sortir avec les enfants.
Alors, en dehors de la période de confinement qu'on a en ce moment, et on sait qu'elle est très propice à la surcharge pondérale pour tout le monde, ça c'est un vrai problème, il est certain que les habitudes, il y a des bonnes habitudes qui doivent être prises tôt. Et ces bonnes habitudes, je ne vais pas les énoncer là, parce qu'on pourrait faire une émission là-dessus, mais on les connaît. Il faut bouger, il faut éliminer, il faut boire, il faut... Mais surtout, il faut en tant que parent, donner l'exemple. Et quand on mange à table et qu'on a la télévision allumée, on commence déjà par ne pas donner l'exemple. Quand on vient d'accoucher à la clinique et que nous, pédiatres, nous allons visiter le bébé dans la chambre, parce que maintenant on fait ça dans la chambre, oui, c'est quand même mieux, c'est plus convivial, et qu'on voit que la maman vous écoute à moitié en regardant la télé qui reste allumée, vous vous dites, ce pauvre bébé, il y a
tout
déjà...
Tout en mangeant des chips.
Tout en, il va avoir du mal.
Ouais, d'accord. Alors, entre 3 et 5 ans, je vous le disais, on n'a pas vraiment d'activités auxquelles on peut les inscrire. Encore, ils sont trop petits. Comment on bouge au quotidien avec eux? Comment on leur montre l'exemple sur l'activité physique, je veux dire?
Ben, une des premières activités, déjà nourrisson, petit bébé à 3-4 mois, on apprend déjà cette fameuse motricité libre. On apprend déjà à mettre un bébé sur le tapis d'éveil, sur le ventre. Alors là, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais l'objectif, c'est que l'enfant a plein d'étapes. La marche, mais il y en a eu plein d'autres avant, il y en a d'autres après.
Donc à 3 ans, la poussette, c'est fini, par exemple.
Ah ben non, la poussette, porter son enfant parce que c'est plus commode, on est pressé, on veut aller à l'école, il ne faut pas prendre de retard, qu'est-ce qu'on fait? On le prend dans les bras, c'est beaucoup plus pratique, et on le prend pour descendre les escaliers. Eh bien, on fait prendre du retard à cet enfant, et dans le domaine de la motricité, et puis dans le domaine aussi du développement d'un équilibre hygiéno-diététique, bien entendu.
Et du coup, du côté de l'alimentation, vous parlez du diététique, mais c'est compliqué parfois de leur faire manger des légumes, on a tendance à parfois les cacher un peu lâchement.
Je fais des gratins avec plein de pâtes et quelques brocolis cachés au milieu.
On a tout fait faux avec les petits morceaux qu'on cachait dans les cuillères lors de la diversification. On en a parlé déjà d'ailleurs une fois. Oui. Il y a des tas de choses qu'il ne faut plus faire pour les petits-enfants parce que ceux qui refusent de manger des légumes ou autres plus tard, c'est souvent parce qu'il y a une injonction quand on a commencé à faire de la diversification alimentaire. Donc il y a là beaucoup d'habitudes qu'il faut reprendre. Et puis, encore une fois, il faut donner l'exemple. C'est très important de donner l'exemple. Et à la maison,
mais nous, on mange des légumes, mais les enfants, ils n'en veulent pas.
Oui,
alors
mais ça ne suffit pas.
Ouais, mais
parce qu'il n'y a pas que les légumes. Il y a les fibres, il y a les céréales, il y a les œufs à la coque. Il y a plein de choses qui sont très bons pour un enfant. Sauf qu'aujourd'hui, on a tendance à faire un gros repas surchargé le soir, qui est le repas convivial. Et du coup, l'enfant, plus il évolue vers la préadolescence, et moins il mange le matin au petit-déj, et plus il va manger le soir, et on sait ce que ça donne pour la suite.
Justement, puisqu'on parle d'alimentation, il faut savoir qu'entre 2 et 8 ans même, on peut aller jusque-là, il y a parfois une néophobie alimentaire qui peut apparaître. C'est quoi précisément ça?
Alors la néophobie alimentaire, c'est une peur qui s'installe, qui est la plupart du temps d'origine psychogène, de tout ce qui est nouvel aliment. Découvrir de nouveaux aliments. Ça peut être plein de choses. Alors nous, en tant qu'adultes, il y en a qui n'aiment pas les huîtres. Ils ont le droit de ne pas aimer les huîtres. Pourtant, c'est très bon. Mais il y en a d'autres qui les aimeront, et puis etc. Eh bien, l'enfant, c'est pareil. Il faut respecter ses goûts. Et on a, grâce au progrès de la neuroscience aujourd'hui, on sait qu'un nouveau-né a déjà des préférences pour tel et tel type de lait, pour tel et tel type d'aliment. Il va reconnaître des saveurs, la saveur umami, par exemple, qui est très développée chez un nouveau-né. Eh bien, il faut lui laisser le temps, ne pas être dans le forçage, favoriser les morceaux que l'enfant va voir, la fameuse DME, et petit à petit, s'y fraye, ça permettra d'éviter les troubles de l'oralité.
Et du coup, pas de chantage quand ils grandissent un peu en disant si tu ne finis pas ton assiette,
pas de dessert.
Si tu manges pas, il n'y aura pas de dessert.
C'est une catastrophe, ça. Moi, je supplie les parents en leur disant oubliez ces mauvaises habitudes.
D'accord.
Oubliez-les.
Donc on accepte qu'il ne mange pas, en fait, et il dit bon, ben non, je ne veux pas. Bon, ben,
on repropose une prochaine fois, quoi, c'est ça.
Un enfant ne mourra jamais de faim, ça n'existe pas sous nos contrées. Un enfant a une notion de satiété, il faut lui faire confiance, il n'a pas besoin de 4 repas, 3 repas suffisent. On pourrait presque dire que 2 suffisent, mais 3 repas suffisent. Ce qui compte, c'est qu'il y a un équilibre entre les repas.
On va terminer sur cette histoire d'alimentation. En termes de vie quotidienne à table, hein, toute la famille à table, avec ce petit enfant qui a donc entre 3 et 5 ans pour l'instant, vous dites qu'il ne faut pas lui donner une assiette à la même taille que la nôtre.
Eh bien, ça n'a l'air de rien, mais l'enfant n'a pas la notion de repas comme nous. Nous, on mange par plaisir. Et puis parce qu'on sait que ça donne des forces, etc. On va faire du sport après, faire que sais-je. L'enfant, pas du tout.
Donc il faut faire comme papa ours, maman ours, chacun le boit à sa taille.
Mais l'enfant, ça l'embête, il n'a pas envie. Donc ce qu'il faut, c'est lui donner un intérêt. Et quand il commence à avoir une assiette qui est très pleine, il bloque. Autant mettre une petite assiette avec un peu de quantité, ça donne l'impression qu'il y en a plus. Et du coup, on peut le resservir derrière après.
Très bien, docteur Fersdorf. On va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez bien avec nous.
Europe 1.
Dans son rendez-vous aujourd'hui, on vous donne tous les meilleurs conseils pour comprendre, éduquer, prendre soin de votre enfant. Et là, on va passer aux enfants de 6 à 9 ans avec les questions les plus fréquentes et les plus importantes qu'il faut se poser face à des jeunes de cet âge-là pour leur santé et leur bon développement psychologique. A tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors notre invité, il est toujours en studio avec nous, c'est vous docteur Arnaud Fersdorf. Vous êtes pédiatre réanimateur et l'auteur du livre Votre enfant de 0 à 16 ans, ouvrage qui est paru chez Attier Parents. Alors docteur, à présent on va s'intéresser plus précisément à la santé des enfants de 6 à 9 ans. Je commence par les vaccins, encore une fois, hein, comme tout à l'heure, la prévention c'est la base. Et là à 6 ans, il y a un rendez-vous rendez-vous, je crois. Enfin, il y a des rappels, en tout cas.
Effectivement, il y a le rappel, c'est tous les 5 ans, en gros. Je ne vais pas m'étendre dessus, mais on va faire le rappel diphtérie, tétanos, polio, coqueluche. Et puis, après, là, pareil, s'il y a des voyages qui sont envisagés, on mettra à jour l'hépatite A, s'il y a besoin ou autre, on verra avec les parents. Et puis, on prépare aussi les parents aux vaccins qui auront lieu plus tard à 11 ans, avec le fameux vaccin contre le cancer du col de l'utérus, qu'on fait aux garçons et aux filles maintenant.
Bien sûr, on commence à leur en parler dès cet âge-là.
On est d'accord qu'un enfant de 6 à 9 ans n'est pas censé avoir des signes de puberté. On doit plutôt être tranquille, entre guillemets, à ce moment-là.
Ça peut que... Alors, c'est vrai que la puberté, en général, elle commence à 8 ans chez les filles et 9 ans chez les garçons, à peu près. C'est ça la tranche d'âge. Ah oui, mais c'est comme
c'est
ça.
Tôt, ouais.
Et d'ailleurs, de plus en plus, on voit les pubertés commencer un peu plus tôt, pour tout un tas de raisons. Je ne vais pas développer là.
Est-ce que vous voulez dire à 9 ans, 8 ans, ce n'est pas déjà des seins, ce n'est pas déjà des poils?
Alors, il peut y avoir une pilosité, ça commence en général par une pilosité au niveau des jambes. Alors, le pédiatre va regarder. C'est très important de vérifier qu'on n'a pas affaire à une puberté précoce, parce que ça peut avoir des conséquences difficiles. Un arrêt de la croissance au bout de 2 ans, etc. Enfin, donc, on regarde. La pilosité est un des signes avant-coureurs. Mais souvent, il y a cette pilosité, elle stagne et il n'y a rien d'autre après. On va regarder
ça, c'est normal.
Hein, ça peut être normal. D'accord. Mais on va quand même vérifier qu'il n'y a pas des bourgeons mammaires qui apparaissent chez la fille ou même chez le garçon. On vérifie l'acné, s'il n'y a pas
la taille des testicules éventuellement pour le garçon.
L'aspect des testicules, l'aspect. La couleur de la peau des testicules, et ensuite la taille qui vont grandir, la verge qui va grandir, ça va venir un petit peu plus tard.
D'accord.
Si on parle notamment de la vie à la maison, c'est des enfants à cet âge-là, en 6-9 ans, ils doivent être associés à la gestion du quotidien. C'est important de les investir dans les tâches ménagères classiques.
Alors, il faut le faire, mais c'est compliqué.
Oui, parce moi, à 11 ans, ils n'ont pas été très associés encore.
Ben, c'est
on parlait des 6-9 ans, là.
Oui, je sais, c'est ça. Mais alors, oui. Et dites-moi tout ce que j'ai raté, on y va.
Vous n'avez rien raté, parce que le pire est à venir.
Enfin,
j'ai envie de dire le pire, non, mais disons, après, il y a l'adolescence, quoi. Donc, on
non,
est
mais
dans
celle
le
de 3 ans, elle fait plein de trucs, mais à 11 ans, bon.
Quand ils sont petits, ils acceptent, etc. Ouais. En fait, il ne faut jamais être dans l'injonction. Il faut leur dire, tiens, qu'est-ce que tu as envie de faire? En fait, c'est très simple, au fond, quand on y réfléchit. L'enfant, il a besoin de trouver sa place dans la famille. Alors, ça dépend aussi s'il y a une fratrie au-dessus ou en-dessous. Ça compte, ça aussi. Il se fait rattraper par un autre derrière ou il y en a un autre au-dessus qui veut imiter. Et il veut la même chose que lui. Oui. Donc, c'est compliqué. Donc, l'idée, c'est de ne pas être dans l'injonction et toujours lui montrer, c'est lui qui doit trouver l'idée de faire. On ne va pas lui dire, maintenant, tu ranges ta chambre. On va lui dire, tu m'invites dans ta chambre? C'est pas la même chose.
Oui. D'accord.
Et une fois qu'on est dans la chambre, tiens, elle est sympa ta chambre, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et puis spontanément, l'enfant va peut-être avoir l'idée, ah bah tiens, oui, c'est vrai, ma chambre, tiens, on va... Ah bah, oui, mais c'est où? Je sais pas où c'est rangé où? Il va comprendre les notions D'accord. de rangement. Il faut pas être...
On y va comme un serpent, sans trop dire, il faut ranger, quoi.
C'est un peu le principe de travailler sur les émotions chez l'enfant, parce qu'il est très vite dans les émotions, surtout dans cette tranche d'âge.
Mais en quoi c'est bénéfique pour lui d'être associé comme ça à la vie de famille et aux tâches ménagères, je veux dire?
C'est bénéfique parce qu'il se sent utile.
Ouais.
Et depuis qu'il est tout petit, il n'a pas l'impression de se sentir utile, il a l'impression d'être un peu boulé, parce qu'on lui dit tout le temps ce qu'il doit faire. Termine ton assiette, fais ceci, fais pas ça, fais pas ci, hein, on connaît l'histoire. Eh bien, il y a un moment donné, il faut, en tant que parent, et ça c'est valable dans toutes les tranches d'âge, c'est de montrer que nous, adultes, on a besoin de lui.
Ah, c'est vrai qu'on est parfois trop dans une transmission verticale, alors qu'il faudrait peut-être un peu plus d'horizontale. Du coup, on évite les menaces ou attention, à 3, je me fâche, je compte jusqu'à 3.
Tu t'as pas rangé tes chaussures ?
1, 2, 2 et demi, 2, 3 quarts.
Et puis,
on a tous...
Et puis, de toute façon, il ne le fait pas.
C'est pas très bien.
On est tous partis en sucette et en live comme ça. Et moi, le premier.
Remettez-nous dans le droit chemin, docteur.
Et moi,
s'il vous
le
plaît.
Premier. Et d'ailleurs, je m'en excuse auprès de mes enfants qui sont grands.
Ça, c'est
aujourd'hui.
Dit, ça, c'est dit.
Ah,
c'est
mais
important.
Je le dis. Ouais. Je le dis parce que c'est pas parce que je suis pédiatre que j'ai pas fait des bêtises. J'en ai fait. Et vouloir qu'on termine ça, etc., en parlant, en disant, tu sais, il y a des gens qui n'ont pas ta chance et tout ça. Il faut arrêter de dire ces choses-là parce qu'on tombe dans l'injonction. Il faut faire avec.
Vous
finalement.
Dites qu'il faut, il faut surtout, quand on est dans la demande comme ça, avec de l'aide, par exemple, pour un enfant, dissocier surtout la demande du lien affectif. Et même chose, ne pas le récompenser s'il le fait, parce que
je
moi, c'est vrai
pas.
Que ça m'arrivait de dire, bon, allez, je te filerai 5 euros si tu mets la table toute la semaine.
Mais voilà.
Bah, alors, moi,
j'ai honte,
mais
je
moi,
l'ai
je
dit.
Le fais pour moins que ça. Il a dit 5 euros pour la table,
mais,
franchement.
C'est beaucoup, on a fait ça.
Je vais en faire quoi, un tyran, c'est ça?
Non, il vous fera un procès. Vous irez en prison quand il aura 25 ans.
Non, ça, non,
je rigole.
Faut pas faire.
Par exemple, le tout truc tout bête chez les plus petits, tiens, une cuillerée pour papa, une cuillerée pour maman. Faut surtout pas faire. Ça fait plaisir de le faire.
Ben
on,
oui.
on se dit l'enfant fait plaisir aux parents. Mais il faut que l'enfant avance dans ses acquisitions de toutes sortes, pas pour faire plaisir aux parents.
Sans
mais il faut
chantage,
qu'il comprenne
sans lien
que c'est
affectif.
Pour lui, pour se sociabiliser, pour s'autonomiser.
Alors 6-9 ans, c'est aussi l'âge où certains commencent à réclamer un téléphone portable. Alors est-ce que c'est trop tôt? Est-ce qu'on peut leur confier un téléphone à cet âge-là?
Ça, c'est un sujet très, très présent, parce que le téléphone portable, nous encore, on est une génération où on a les portables, les ordinateurs, mais les plus jeunes n'auront presque jamais d'ordinateur. Ils font tout à partir des smartphones. Et donc, là, c'est vraiment enfant dépendant, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend si l'enfant, pour des raisons X ou Y, doit aller
parents
à l'école
divorcés,
tout seul.
Il a besoin,
si les parents sont séparés, si l'école est toute proche.
Il faut qu'il y ait une utilité, que ce ne soit pas pour son désir,
voilà.
C'est ça.
Il faut qu'il sente que ce n'est pas automatique, qu'il y a une confiance mutuelle. Et en fait, c'est ça, l'enfant qui grandit, et c'est ce que j'aborde dans le livre régulièrement, dans tous les chapitres finalement, c'est l'autonomisation, mais c'est aussi faire confiance à l'enfant pour qu'il se responsabilise. Ça n'a l'air de rien. Si on lui dit toujours ce qu'il doit faire, il ne peut pas se responsabiliser. Le téléphone, on va lui dire, bah oui, tu vas avoir un téléphone. C'est normal, ça fait partie de la vie de tout le monde. Mais que vas-tu en faire? Dis-moi, on va faire un contrat. En général, le premier téléphone, la moyenne, c'est vers 11 ans. Mais on voit déjà des enfants qui en ont plus tôt, pour les raisons qu'on a expliquées avant. Il y a un bout du trajet qu'il va faire tout seul.
Justement, à partir de quel âge un enfant peut aller tout seul à l'école? Parce que vers 6-9 ans, là, CM1, CM2, ils commencent à le demander. Ils sont prêts? Ils sont matures pour ça?
Ah ben oui, ouais. 8
et
ans.
Je crois que vous conseillez plutôt de le faire à l'automne et au printemps, les premiers retours de l'école, on va dire
pourquoi
seul.
Pourquoi? Parce qu'on ne va pas lui apprendre à faire ça alors quand il y a du verglas. Ou quand il y a du vent, ou la nuit qui fait nuit tôt. Donc autant le faire si on le peut, en fonction de l'âge de l'enfant.
Et plutôt le retour d'abord que l'aller.
On commence par faire le retour avec lui, parce que comme ça au moins on est à l'autre bout. Et on va le réceptionner. On sait qu'il ne s'est pas perdu entre-temps. Et une fois qu'il a bien fait le retour, eh bien, il va faire le même chemin dans l'autre sens. On va faire avec lui, on va vérifier les obstacles, les dangers éventuels. Et un enfant, il aime ça, être responsabilisé. Et bien sûr, on va adapter au caractère de l'enfant, ça va de soi.
Bonjour, merci beaucoup, docteur Fersdorf. Ne bougez pas, on va continuer cet entretien dans quelques minutes.
Europe 1.
Sans rendez-vous, on revient dans un instant et on va continuer à vous guider dans les moments clés de l'enfance et de l'adolescence. Juste après, on va voir quels sont les rendez-vous médicaux à ne pas manquer chez les enfants de 10 à 16 ans. Comment s'assurer de leur bon développement psychique dans cette période si complexe que peut être l'adolescence. On est de retour très vite. A tout de suite sur Europe 1.
Mm-hmm.
Vous venez d'entendre « Où me tourner ?», c'est signé du grand Jean-Louis Aubert sur Europe 1.
Europe 1, Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Vous êtes sur Europe 1 dans son rendez-vous et nous accompagne cet après-midi. C'est vous, docteur Arnaud Fersdorf. Je rappelle que vous êtes pédiatre réanimateur à Strasbourg. Alors cet après-midi, vous nous distillez quelques-uns de vos meilleurs conseils pour nos enfants de 0 à 16 ans. Et justement, on va passer au plus grand à présent, les 10-16 ans. Clairement, là, c'est le grand saut, hein. C'est la préadolescence, l'adolescence. On doit continuer à vous les amener régulièrement à cet âge-là. Je veux dire, moi, j'ai l'habitude d'y aller tous les ans, au minima, enfin, à moins qu'ils soient malades, mais à partir de 10 ans, 11 ans, 12 ans, 14 ans, on continue ce même rythme?
Eh bien, on va dire que c'est la deuxième phase de croissance rapide, hein, qui commence vers 11 ans chez la fille, vers 12 ans chez le garçon. C'est des phases qu'il ne faut pas rater. Parce que c'est là, alors je dirais qu'en moyenne, une fois par an.
D'accord.
C'est très important. Pourquoi ? Parce que, alors je rappelle que le pédiatre suit l'enfant jusqu'à 16 ans, au-delà même, parce qu'il y en a qui continuent de venir nous voir après, mais ce qui est important, c'est qu'on va faire du dépistage. Et ça, c'est essentiel. Alors, le dépistage en particulier pour la mise en place d'une scoliose, pour des problèmes de croissance, pour des problèmes de
puberté qui se passe pas bien aussi,
de problèmes de puberté. Ouais. Enfin, c'est extrêmement vaste. Et souvent, ce sont des sujets dont l'enfant ne se plaint pas, n'ose pas en parler à la maison. Et donc nous, on va être là pour le mettre en... Il est en confiance puisqu'il nous connaît et on va arriver à le faire parler sur tel et tel sujet et ça va permettre de déminer pas mal de choses.
Alors qui dit adolescence dit malheureusement bouton d'acné et oui. Mélanie le sait, c'est quelque chose qui est assez fréquent.
C'est gratuit.
Et
hein,
sympa. Hein.
Mais ça touche beaucoup d'adolescents malheureusement, c'est presque un passage obligatoire.
80%.
Ah oui, quand même.
Ouais. Mais on a des choses à leur proposer, c'est aussi ça l'intérêt de la consultation.
Oui. Alors l'acné peut commencer plus tôt, on le sait d'ailleurs, il y a des nourrissons qui font déjà de l'acné, mais pour d'autres raisons. L'acné, je ne vais pas rentrer dans le mécanisme, le processus de l'acné, c'est un problème avec le poil et la glande qui est la base du poil, et il y a un sébum qui est trop épais et qui finalement bouge tout, il y a des bactéries qui vont se développer.
Mais il ne faut pas les laisser avec ça, il faut consulter.
Alors, il ne faut pas les laisser avec ça. En fait, chaque enfant, chaque ado est différent, il y a des ados qui s'en fichent complètement. Et puis, il y en a d'autres qui sont extrêmement attentifs à leur image, comme on le sait. Donc, il ne faut pas que les parents hésitent à consulter, en parler avec leur médecin généraliste, avec leur pédiatre. Parfois, quand c'est une forme difficile, on va aller consulter un dermatologue. Mais la prise en charge doit être faite.
Il y a des solutions pour tous les cas,
bien
sûr. D'accord.
Oui, bien sûr.
Alors, à l'adolescence, chez les garçons, la voix, elle commence aussi à faire des siennes, à muer. En général, ça commence à quel âge, ça ? Moi, j'attends ça. Il a 11 ans, mon fils, je me demande quand est-ce que ça va arriver. Les petits déraillements, c'est ça ? Vous l'avez, vous rappelez cette période, Jimmy ?
C'est tout à fait passionnant parce que c'est la charge hormonale, en particulier la testostérone, qui va agir et qui va provoquer une modification du larynx chez le garçon, mais chez la fille. La fille, elle mue
ah
aussi.
Ah bon, d'accord.
Mais oui, la fille, elle mue. C'est en général vers 13 ans, 14 ans.
Je ne me rappelle pas de ces moments-là, moi.
Mais la fille mue, elle a une tonalité qui baisse un peu. Si vous avez des enregistrements de vous quand vous aviez 8 ans, vous avez forcément une tonalité un peu plus basse. Eh bien, les garçons, ça descend beaucoup plus. Et il faut savoir que sous l'effet de la testostérone, par exemple, eh bien, les cordes vocales, qui sont donc dans le larynx, grandissent d'un tiers.
Ah oui.
Donc comme elles grandissent d'un tiers pendant cette période de 6 à 12 mois, c'est en 6 à 12 mois que ça se passe, automatiquement la tonalité basse et on a une voix grave qui descend.
Pour moi, on comprend pourquoi ça existe cette histoire.
Et est-ce que vous avez un petit conseil justement contre la voix qui déraille ? Est-ce que le fait de parler trop vite, ça peut poser problème ? Est-ce qu'on peut essayer de ralentir le débit par exemple ?
Alors il y a des enfants par exemple qui ont du mal psychologiquement à trouver leur place dans une famille au milieu de la fratrie, ce qu'on appelle la dysmorphophobie, et du coup qui gardent des voix un peu de fossé. Qui gardent une voix non pas grave, mais qui maintiennent une voix un peu à l'ancienne. Il faut qu'ils trouvent leur place. Il faut boire de l'eau, il faut avaler sa salive, il faut commencer parfois à fredonner un peu avant de parler devant les autres.
Quand on fait un exposé à l'école et que ça déraille.
Voilà, quand on fait un exposé à l'école, il y a des petits moyens.
En fredonnant avant, ça stabilise la voix en fait.
Et ça, en fait, l'objectif, c'est de stabiliser la voix.
À quel âge ça s'arrête ? À quel âge il a mué en général ? Alors, le garçon, c'est fini ?
En général, à 15 ans, la voix est posée, mais ça peut être plus tard. 16 ans, il y a des enfants, ça sera un peu plus tard. Mais il faut savoir que l'organe de la voix est l'organe qui mature en dernier jusqu'à 30 ans.
Ah oui ! Jimmy, vous avez à peine terminé. Vous
avez je viens tout juste de finir ma mue, c'est génial. Alors, qui dit adolescente dit aussi transpiration avec les mauvaises odeurs qui vont commencer à apparaître. Et justement, pourquoi la transpiration sent moins bon chez un adolescent que chez
pourquoi
un petit bébé ?
Ça sent un peu fort, ça sent jeune au bébé.
Enfant,
ouais.
C'est mignon, ça sent pas. Même les pieds sentent bon chez les bébés.
C'est ben, c'est-à-dire que. Alors, c'est aussi une histoire de bactéries, hein, on le sait, hein, la transpiration. Ce sont des zones fragiles que les enfants n'ont pas. Enfin, les ados ont tendance à négliger un peu. Il ne faut pas oublier aussi que l'adolescent, par essence même, bouge beaucoup plus qu'un adulte.
Donc il transpire plus
parce qu'il est plus dans le mouvement. Le sport, mais pas que. Il y a le mouvement de tous les jours. Il bouge, il court et donc ça favorise la transpiration. Il y a cette tempête hormonale qui joue énormément. Et puis, Il change moins souvent de vêtements.
Il faut leur dire un peu.
Il remet le même truc que hier et avant-hier.
Donc
il
on peut leur donner 2-3 conseils toilette. Pour
Donc,
arranger les choses.
Voilà, on commence déjà par des conseils d'hygiène classiques. Et puis, si ça ne suffit pas, je vois parfois des enfants qui, déjà à 7 ans, ont une forte odeur
de transpiration. C'est un signe de puberté, ça, un enfant de 8, 9, 10 ans qui sent un peu fort déjà. Ouais.
Ça peut être un signe pour nous quand on sent ou quand les parents nous disent qu'elle sent fort la transpiration. Souvent, plus souvent chez les filles que les garçons, à 7 ans, on va voir, on va examiner l'enfant, on va chercher pour voir si par hasard, il n'y a pas autre chose qui se passe. Mais en général, c'est isolé.
Alors, après l'adolescence, il y a des préados qui tout d'un coup se disent « Bon, ben maintenant, je vais décider de tout, je suis grand. » Et notamment, vous en parliez tout à l'heure, côté alimentation, ça peut devenir un peu n'importe quoi. Notamment, il y a souvent l'envie de sauter le petit déjeuner. C'est « J'ai plus le temps, je dois aller au collège, j'ai pas faim le matin. » Ça, il faut vraiment absolument lutter contre ça, ne pas céder. Hein. Mais alors, sans forcer non plus, c'est assez compliqué.
Vous avez utilisé le mot « ne pas céder ». Il faut que l'ado comprenne que c'est important pour lui. Si on lui met la pression, il va encore moins vouloir prendre le petit-déj.
On ne lui dit pas, et je compte jusqu'à 1, 2, ça ne marche plus à 13 ans.
Mais c'est vrai que l'adolescent, on a tous été ados, et quand on est ado, on n'a pas envie de voir les parents relous, on a envie de se casser de la maison, on a envie de tracer pour retrouver ses copains, pour raconter ce qu'on a raconté déjà 10 minutes avant sur le smartphone, mais voilà, et on a l'impression qu'on n'est pas compris. Du coup, l'ado se lève le plus tard possible pour ne pas avoir... j'ai envie de dire, la tronche de cake de ses parents à la table du petit déjeuner.
On voit que vous les connaissez bien.
Là, c'est compliqué. Du coup, ce qu'il faut, c'est l'encouragement, c'est d'abord expliquer, et ça c'est notre rôle, médecin, on explique à l'ado, quand il vient, sans être dans l'injonction, toujours pareil, lui dire pourquoi c'est important d'avoir un gros petit déjeuner
et pourquoi
et non
c'est
pas
important,
un gros dîner.
C'est quoi les arguments?
Les arguments, c'est de lui dire que grâce à ça, tu vas pouvoir bien l'intégrer. On lui demande d'ailleurs, on lui dit, t'as pas l'impression qu'à partir de 10-11 heures, t'es un peu dans le pâté? Ah oui, tiens, je vais t'expliquer pourquoi. Tu sais que ton réservoir, c'est comme une Ferrari, pas assez d'essence, tout ça. Toi, ton estomac, il n'a pas assez de trucs. Et en général, quand on leur explique, il y a beaucoup de choses qu'on peut leur faire comprendre.
Alors, à l'adolescence, justement, sur le plan alimentaire, il y a aussi ces moments où ils prennent des grandes décisions. Ils vous annoncent tout d'un coup, un jour, à 14 ans, ça y est, papa, maman, je suis végane. Là, comment on gère ça?
Alors ça, c'est assez intéressant parce que on a vu ça arriver, ça fait 10 ans, et j'ai plus les chiffres, mais on a presque 10 à 13% des filles adolescentes qui sont véganes.
Tant que ça.
C'est les chiffres montent. Et souvent, les garçons suivent pour être bien avec les filles. Et alors, le véganisme, c'est souvent un peu philosophique, mais c'est aussi un outil extraordinaire pour l'ado de s'opposer aux parents, parce que c'est ça l'adolescence. Je vais m'opposer, tu y connais rien, moi je sais ce qui est bon pour mon corps. Et là, les parents sont souvent démunis.
Du coup, on ne se moque pas et on ne les force pas à manger le beefsteak qui est sur la table en lui disant « Écoute, c'est comme ça et pas autrement, ta mode, elle va te passer. »
Non, jamais, surtout pas. Un ado qui a un choix décisionnel, ça lui appartient. Il y a certainement des raisons très profondes, de liens dans la famille, de ceci, de cela, d'exemplarité, tout ce qu'on voudra, d'opposition. Et donc, il ne faut surtout pas rentrer là-dedans, sinon se moquer de lui, ça va lui faire du mal, beaucoup de mal. Il faut au contraire valoriser son choix, l'écouter et lui dire « Ah, écoute, c'est super, parle-moi, dis-moi un peu, tiens, qu'est-ce que tu dans le véganisme, qu'est-ce qui est intéressant là-dedans? Moi, je ne sais pas tout, raconte-moi. » Et puis, petit à petit, là-dedans, en l'écoutant, on va parler un petit peu de calcium, un petit peu de lait, un petit peu de vitamine D.
Distiller quelques bons conseils pour rester en bonne santé quand même.
Voilà.
Ouais, très bien. Merci docteur Fersdorf d'avoir été avec nous cet après-midi. Et donc, pour en savoir davantage, pour de nombreux autres conseils en fonction de l'âge de vos enfants, c'est une mine d'infos, vraiment, je vous le recommande, son livre « Votre enfant de 0 à 16 ans » paru chez Atier Parents. Merci encore docteur.
Europe 1.
Dans un instant, un vent de beauté dans ce studio avec la chronique de Benjamin Lévesque. Aujourd'hui, il s'est intéressé à cette substance qu'on retrouve de plus en plus souvent dans nos cosmétiques, le CBD. Alors, quelles sont ses éventuelles vertus? Y a-t-il des risques? Il nous dira tout. À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission Santé Bien-être sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Et à présent, on est content, il est temps de soigner notre apparence. Enfin, surtout Jimmy, parce que ça lui tient à cœur vraiment cet aspect-là de notre
travaux.
Émission. Voilà, il y a beaucoup de travail. Alors Benjamin, c'était hier, la fête internationale du cannabis. Et pour l'occasion, vous vouliez nous parler du CBD que l'on rajoute dans certains de nos produits cosmétiques.
Oui, ce fameux CBD, le cannabidiol. Alors, un petit rappel, c'est une molécule qui est extraite de l'huile de chanvre, donc du cannabis. Et il faut savoir qu'on utilisait déjà le chanvre à l'âge de pierre, comme le raconte Sophie Strobel. Elle est biologiste pour la marque Polachoice.
La fibre du chanvre est très résistante, donc on l'utilisait pour fabriquer des cordages par exemple, ou pour le vêtement. On l'utilise aussi pour ses vertus médicinales, on l'utilise pour ses propriétés apaisantes, anti-inflammatoires. Il y a du CBD dedans, aujourd'hui on sait que c'est grâce au CBD. Évidemment à l'époque on ne le savait pas, c'était empirique. Mais voilà, c'est un peu comme quand on utilise l'écorce de saule, qui contient de l'aspirine, pour apaiser à cette époque-là.
Et en 2021, du CBD, eh bien on en retrouve dans nos crèmes, dans nos savons, les huiles de massage ou encore les shampoings.
Mais est-ce qu'il y a un réel intérêt à mettre du CBD dans les crèmes? Est-ce que c'est pas juste pour le fun?
Eh bien, on pourrait penser que c'est un phénomène de mode, mais en fait, pas du tout. C'est un véritable allié beauté puisque c'est un anti-inflammatoire très puissant, comme l'explique Sophie Strobel.
Il y a sur les cellules de la peau des récepteurs au CBD. Il y en a deux, CB1 et CB2. Si vous voulez, le CBD, il va agir un peu comme une clé qui pourrait spécifiquement ouvrir cette serrure et ouvrir les portes de la sérénité cutanée. La peau, elle a tendance, elle est agressée au quotidien par de nombreuses choses, les UV, le tabac, la malbouffe, le stress, etc. Donc elle se disperse un petit peu et le CBD va un peu, c'est un peu comme un professeur de méditation si vous voulez. Il va lui apprendre à se recentrer sur l'essentiel, s'apaiser, mieux réparer la peau, la défendre, etc.
On pourra donc conseiller bien l'utilisation des crèmes avec du CBD pour des personnes ayant une peau acnéique, puisque ça va justement apaiser l'inflammation de la glande sébacée, et puis pour les personnes sujettes aux pellicules, c'est pour ça qu'on en retrouve du CBD dans certains shampoings.
Bon Benjamin, moi j'ai ni pellicule ni acné, j'ai beaucoup de chance, je suis parfaite. Non, je plaisante évidemment, mais est-ce que je peux avoir un autre intérêt à utiliser le CBD?
Bah oui, bien sûr, au-delà des vertus anti-inflammatoires, le CBD contient des antioxydants, des flavonoïdes, de bons acides gras et des vitamines A et E, donc il est truffé d'actifs anti-âge.
Mais on est d'accord Benjamin, pas de risque de devenir dépendant si on
c'est le docteur qui parle, attention, il a peur hein.
Plein de CBD sur le visage, on ne devient pas toxicomane.
Addict, ouais.
Non, la réponse est non, on ne peut pas devenir accro. Et pour ça, j'ai posé la question au professeur Laurent Carilla. Il est psychiatre et addictologue à l'hôpital Paul Brousse à Villejuif.
Le cannabidiol existe sous différentes formes, sous forme d'herbes, sous forme de gélules, peut être contenu dans des produits cosmétiques. Clairement, dans la plante cannabis, il y a deux éléments importants. C'est le tétrahydrocannabinol et le cannabidiol, qui ont des effets complètement différents. C'est le tétrahydrocannabinol qui va être responsable de l'addiction, de la dépendance avec des signes physiques et psychologiques. Alors que le cannabidiol, lui, les vertus à la base sont des vertus anxiolytiques. Le cannabidiol, dans aucun cas, rend dépendant.
Bon, bah c'est déjà une très bonne nouvelle, mais du coup, Benjamin, je vais quand même faire ma journaliste santé. Il n'y a pas de risque, malgré tout, d'autres risques, d'autres dangers avec le CBD sur notre peau.
Alors, pas de contre-indication. Néanmoins, la dermatologue Nina Ross conseille de bien regarder la composition du produit pour vérifier la présence ou non de certaines molécules à risque. On l'écoute.
Elle contient quand même des substances qui peuvent être irritantes comme les terpènes, qu'on va retrouver aussi dans les huiles essentielles, donc il faut bien vérifier sur le produit qu'on achète, soit que les terpènes ont été éliminées, soit dans ce cas-là, l'utiliser plutôt le soir et sans exposition au soleil le lendemain, et avec prudence sur les peaux très réactives, peut-être faire un petit essai d'abord sur une autre zone du corps que le visage avant de se lancer, et donc protection solaire le matin.
Et puisque le risque avec les rayons UV, eh bien, c'est de voir apparaître sur sa peau des irritations, des taches brunes, voire des brûlures.
Très bien, merci beaucoup Benjamin Lévesque pour ce conseil beauté.
Europe 1.
Dans un instant, la dernière partie de cette émission, vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez surtout car juste après, on se retrouve pour la chronique sexo de Catherine Blanc. A tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Sans rendez-vous, revient dans un instant. D'abord un peu de musique avec une programmation spéciale aujourd'hui à l'occasion des 5 ans de la disparition de Prince. Europe 1 lui rend hommage toute la journée. Donc je vous propose d'écouter Cream.
You to go to the fire. Yes, you are. Cream, get on top. Cream, you will cut. Cream, don't just stop. Cream, shaboogie ball. Look up in the air, it's your time.
Ça fait du bien, un peu de bonne musique sur Europe 1. C'était donc Cream de Prince à l'occasion des 5 ans de sa disparition. Vous l'avez compris, Europe 1 lui rend hommage aujourd'hui toute la journée.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1. Nous sommes avec vous depuis 15 heures pour cette ultime séquence de l'émission. Nous sommes rejoints, comme tous les jours, par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Catherine, aujourd'hui, nous avons reçu la question de Julien, que je vais vous lire tout de suite. Avant chaque date, ça veut dire rendez-vous, en jeunes, on va dire, je me fais des séances de sport intensives, dit-il, et j'essaye de ne presque rien manger pour être au top physiquement, mais à la longue, c'est usant et même très fatigant. Comment puis-je me préparer autrement ? Catherine, déjà, est-ce qu'on a une explication à ce genre de comportement un peu extrême quand même ? Parce que c'est un peu le culte du corps parfait. À un moment donné, en plus, pourquoi le corps, il devrait pas être tout... Il s'impose ce régime-là assez difficile juste pour des dates, quoi.
Eh bien, parce que justement, c'est chercher le retour sur soi absolument merveilleux. Donc, ne rien laisser au hasard, tout contrôler pour être exactement l'idée qu'il s'imagine que l'on attend de lui. Or, dans la réalité, ce sont des corps qui se rencontrent, ce sont des êtres qui se rencontrent avec ce qu'ils sont. Et le risque, c'est de développer ce qu'on appelle un faux self, une fausse image de soi, qui sera très difficile à contenir sur la longueur de la relation. Parce que vous imaginez bien que là, on est sur des rendez-vous d'un soir.
Ponctuels, oui,
mais imaginons une relation amoureuse, s'il faut toute sa vie devenir anorexique et faire de la muscu, c'est surtout un risque de mort. On n'est pas dans un risque de possibilité de relation. Et puis, il y a aussi l'idée pour la personne en face d'être trahi parce que ça n'était pas exactement si tant est que la personne regarde vraiment ce genre de détails, parce que entre la personne qui aura mangé un repas normal
et un pois chiche la fois d'après, il n'y aura forcément pas beaucoup de différence, je pense.
Pas pour l'autre, mais pour lui. Donc c'est tout est en direction de la personne
rencontrée. Se regarde trop en fait dans ces moments-là, parce que s'il le faut, effectivement, le partenaire à ce moment-là n'a rien à faire en fait complètement de ce détail-là physique.
Il se regarde, mais dans le sens, encore une fois, on n'est pas dans une idée de se regarder au sens nombriliste, mais de doute quant à soi, et donc de besoin de parfaire, d'être au rendez-vous absolu de l'autre. Mais ce qu'on est en train de dire, moi, me fait penser à toutes ces femmes qui, aujourd'hui encore, et sans doute fort heureusement d'ailleurs, même si je n'ai pas de
jugement... Se pomponnent à mort, maquillées, épilées, coiffées...
etc. Et donc, on peut se dire aussi que...
Ça va de ça aussi, c'est du même ordre, c'est ça.
C'est se réduire à l'état d'objet de l'autre. Et avec
c'est sympa en même temps de se faire joli avant, juste de se faire joli, je veux dire, que ce soit un homme ou une femme, de se faire beau, quoi. C'est ça, partie de la séduction.
Bien sûr, et la frontière est très difficile. Si je vous invite chez moi, mais je vous dis, je vous invite chez moi, mais on fera ce qu'il y a avec ce qu'il y a, et puis il n'y a rien. Et ben voilà, et puis il y a un vieux truc qui d'ailleurs est périmé, mais on va le manger quand même. C'est sûr que ça me pose la question un petit peu.
Je ne viendrai pas, Catherine, je pense.
Voilà, donc ça me dit.
Vous m'avez reçu déjà, vous m'avez très bien reçu, je tiens à le dire.
Merci. Donc ça me poserait sinon la question, est-ce que j'ai vraiment envie de vous recevoir et quel respect j'ai de vous? Si maintenant tout est contre moi, c'est-à-dire je vais faire un truc formidable, mais contre moi, c'est-à-dire je n'ai pas la fierté pour moi-même, je n'ai pas le plaisir de vous montrer ce dont je suis capable moi-même, etc. Si je m'oublie trop dans l'histoire pour ne répondre qu'à votre désir parce que vous aimez ça, pas ça, et ça, pas ça, etc. Là, ça pose vraiment la question de ce que je veux faire croire que je suis et que je ne suis pas en réalité.
Donc, il en fait trop, on peut dire ça clairement. Oui, c'est un peu trop et il se met en danger, en fait, c'est ça.
On peut dire que c'est peut-être une histoire de jeunesse, mais en tout cas, c'est une histoire de doute quant à soi. C'est une idée de vouloir être le mieux possible. C'est tout à son honneur de vouloir être le mieux possible, à condition de ne pas s'y perdre et notamment pas se perdre dans l'idée qu'il se fait des autres, du désir de l'autre sur lui-même.
Puis là, ce qu'il a l'air de raconter, c'est ce qui se joue finalement à chaque fois à un premier rendez-vous, puisqu'il dit à chaque date, donc ça veut dire qu'il rencontre à chaque fois des personnes différentes, donc à chaque fois, c'est la première fois. Comment on se prépare bien et juste sereinement à un premier rendez-vous, en fait? Qu'est-ce qui serait normal, finalement?
Alors, déjà, ça décharge. Je crois qu'on a besoin, pour aller dans une relation, une aventure qui fait toujours un peu peur, puisque c'est de l'inconnu, même si c'est source d'excitation, on a besoin de sentir que, voilà, qu'on pourra être en tranquillité avec soi-même. Et si, en effet, il est en tranquillité avec lui-même, le ventre un peu vide, les muscles bien bandés, à défaut d'autres choses qui banderaient derrière, eh bien, évidemment, on peut le comprendre, se mettre le mieux possible.
C'est une manière de se faire beau, quoi.
C'est une manière de se faire beau. Tout à l'heure, on disait de se regarder, certes, mais c'est aussi une façon de pouvoir se quitter, puisqu'on sait qu'on a apporté le principal, solidement, en quelque sorte, et que du coup, on va pouvoir regarder l'autre, puisqu'on n'est pas en train de se juger. Mais ça veut dire qu'il y a quand même trop de jugement.
Donc, dans... Puis il y a un manque de confiance, hein, quand même.
Il y a un manque de confiance. Ouais. Bien sûr. Donc, mais encore une fois, la personne qui arriverait, qui a tellement confiance en elle, qu'elle n'est pas propre à laver, on peut se dire qu'on préfère peut-être celui qui manque un peu de confiance.
Oui, c'est vrai, attention. Je suis d'accord. Moi, je valide, je prends celui qui a pas beaucoup confiance. Merci beaucoup, Catherine, pour tous ces conseils. Et je vous dis donc à demain. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, c'est Historiquement Vôtre avec Stéphane Bern et Mathieu Noël. Bonjour, messieurs.
Bonjour Mélanie.
Ah, aujourd'hui, vous savez, c'est l'anniversaire de la reine Elisabeth II d'Angleterre. Elle a 95 ans. Alors, on a réuni ceux qui l'ont immortalisée. D'abord, le photographe Sir Cecil Beaton, le peintre Lucian Freud. Mathieu, vous avez une idée de génie. Là.
Une idée de génie, je suis allé chercher assez loin, c'est les Sex Pistols. Ils ont chanté God Save the Queen, c'est la version que vous préférez, Stéphane.
Ah oui, c'est la plus rock.
C'est très très rock, c'est même punk, on peut le dire. À tout à l'heure.
Merci beaucoup, messieurs. Très beau programme. On sera évidemment, comme tous les jours, à l'écoute. Et vous aussi, je vous le conseille, restez bien sur Europe 1.